Loïc Tassé, bonjour.
Bonjour Bernard.
Alors, cette rencontre entre Trump et les dirigeants démocrates pour trouver un compromis sur le mur, ça fait de patate.
Ben oui, mais on s'y attendait. D'ailleurs, Trump l'avait, je pense, planifié comme ça, là, parce que en ce moment, on est dans une grande entreprise de charme de la part de Trump et de la part des démocrates. Écoute, ce qui s'est passé, c'est très simple. Elle a duré 14 minutes, la réunion. Trump est entré, il a serré la main de tout le monde, il a dit bonjour. Il y avait des bonbons. Il a donné des bonbons à tout le monde.
Vraiment? C'est vrai?
Oh, oui, ça fait partie. Et puis, dans la discussion, Schumer a dit, écoutez, vous utilisez les gens comme instrument pour obtenir votre mur. Pourquoi est-ce que vous n'ouvrez pas le gouvernement et pourquoi est-ce que vous ne cessez pas de faire du mal aux gens? Et Trump aurait répondu, parce qu'autrement, vous ne me donnerez pas le mur.
Ce qui est vrai.
Ce qui est vrai. Mais ça lui faisait rien de...
Écoute, de parler de la souffrance qu'il
impose. Il y a 300 000 personnes qui ne reçoivent pas de chèque de paye. Donc, au gouvernement en ce moment, et il y en a 500 000 qui sont obligés de se rendre au travail, les douaniers par exemple, mais qui ne reçoivent pas non plus de chèque de paye. Soit dit en passant, si vous traversez aux États-Unis, soyez gentils avec les douaniers américains.
Même si eux ne sont pas toujours.
Oui, ça, on peut comprendre. Donc, Trump ensuite dit, est-ce que vous êtes d'accord avec mon mur? Nancy Pelosi a dit non. Alors Trump s'est levé et puis il a dit, alors nous n'avons plus rien à discuter. Et je viens de te résumer l'essentiel de la réunion. C'est ça qui s'est dit en 14 minutes.
Très bien.
Alors, c'était vraiment... Alors, il est en ce moment à la frontière avec le Texas.
Oui.
Il a déclaré aussi, en chemin, qu'il allait presque certainement déclarer l'état d'urgence. Donc, il fait simplement monter les attentes face à tout ça. Et si tu veux, on regarde ce spectacle. Moi, je trouve ça un petit peu déplorable dans la mesure où, tu sais, on ne parle pas des questions importantes. Qu'en est-il de l'intégration puis de l'assimilation des immigrants aux États-Unis? Est-ce qu'on parle de ça? Est-ce qu'on parle du problème de la dénatalité aux États-Unis? Non. Est-ce qu'on parle du problème des policiers qui n'arrivent pas à démanteler les réseaux de trafic, je pense aux fentanyl, de drogue, etc.?
Oui, oui.
Pourquoi? On ne parle pas de ça non plus.
On parle du mur.
C'est des vraies questions, ça. Mmh, elles sont toutes évitées. Tout est maintenant une question de ce mini-référendum, en fait, de Trump. Est-ce que Trump aura son mur ou non? C'est une partie de bras de fer,
Oui. Mais
ça n'a aucun intérêt.
Et on ne voit pas la fin. On ne voit pas la fin de ce...
Non.
Les deux camps se sont peinturés dans le coin.
Exact.
Solidement. Bon, là, on n'en parle pas souvent de l'Afrique, mais franchement, il y a eu tellement de rebondissements dans cette histoire d'élection au Congo que je pense qu'il faut en parler, d'autant plus qu'on a des concitoyens d'origine africaine.
De la République du Congo aussi.
Et
en fait, les résultats viennent de sortir. Il y a eu des élections. J'en avais parlé un peu ces derniers jours, mais on attendait les résultats. L'Église avait envoyé 40 000 observateurs sur le terrain, l'Église catholique.
Ah oui.
Et surprise, le gagnant, c'est un chef de l'opposition. C'est Félix Tshisekedi. Je savais que j'allais buter là-dessus.
Pourquoi tu disais par surprise? Parce qu'on pensait que le régime allait empêcher un leader
favori. Écoute, il a eu 7 millions de votes et le favori du régime, c'était Emmanuel Chadari, qui lui n'a fait que 4,4 millions de votes.
Ah, mais donc, ça veut dire que la démocratie aurait fonctionné?
Oui. Sauf que le numéro 2, Martin Fayulu, lui a eu 6,4 millions de votes et lui ne reconnaît pas les résultats.
OK, donc celui qui aurait gagné, résultat préliminaire encore, 7 millions. Le deuxième est à 6,4 millions de votes et il ne reconnaît pas la victoire du premier.
Et pire que ça, l'Église dit non, ce ne sont pas les vrais résultats.
Oh, ça c'est plus problématique.
Oui,
parce que c'est l'Église, mais parce que ce sont des observateurs supposément neutres.
Oui, mais est-ce que les observations des observateurs, même s'ils sont 40 000, valent la même chose que le comptage, le décompte des bulletins de vote?
Ben, c'est parce que 40 000 observateurs, s'ils disent tous la même chose, là, mettons, là, ça en fait beaucoup.
Tu vois que la situation est vraiment une situation qui risque de s'envenimer. Et plus que ça...
C'est dommage, hein?
Oui, le candidat de Joseph Kabila, l'actuel président, qui est là depuis, je crois, 17 ans.
Ah, lui serait temps qu'il
longtemps
part,
qu'il est là.
Hein?
Ouais. Lui, il accuse... En fait, on ne sait pas ce qu'il... Lui... On ne sait pas ce qui va arriver avec lui, on ne sait pas ce que Kabila va dire. Est-ce que Kabila va effectivement accepter le résultat des élections ou non? En tout cas,
Tu nous l'as dit. Le candidat de Kabila, lui, est clairement battu.
Il est clairement battu, mais sauf que le numéro 2 dit « Oui, mais en fait, c'est parce que vous avez passé une attente, Monsieur Kabila, vous avez passé une entente secrète avec le numéro 1. » Tu vois, on est dans ce genre de théorie du complot en ce moment.
OK, mais à suivre, bref.
Oui.
Et les résultats définitifs sont attendus pour quand, là?
dans les jours qui viennent. Ce sont des résultats préliminaires, mais assez solides pour qu'on les publie.
C'est quand même... Oui, voilà, c'est ça. OK. Parle-nous de ce droit à la réparation.
Ah, je savais que ça te ferait plaisir.
Ah oui.
Je devais en parler hier.
Ça, écoutez puis... ça, là. C'est vraiment... Je suis sûr que vous allez vous reconnaître dans ces histoires.
Ben, je pense qu'il n'y a pas grand monde là-dedans. Les réparations, tu sais, t'as une machine à laver, puis elle brise, puis ça coûte plus cher de la réparer que d'en acheter une nouvelle. T'as un cellulaire, puis tu sais, tu peux pas
toujours
le faire réparer.
Toujours la même histoire. Puis on sait que c'est fait pour ça, là, l'obsolescence planifiée.
Eh bien, en Europe et dans plusieurs États américains, on étudie très sérieusement la possibilité d'avoir un droit à la réparation. C'est-à-dire qu'on va forcer les manufacturiers à fabriquer des produits qui sont plus faciles à réparer et plus durables. Et ce sont les ministres de l'Environnement qui proposent ça dans au moins 18 États américains et dans les États européens. Donc, on veut plus de pièces collées, plus de machines sans pièces de rechange.
On en veut plus ou on en veut plus?
On en veut plus du tout.
On veut plus de ça.
On veut plus en avoir. OK. Et des études montrent d'ailleurs que le nombre de machines qui brisent à l'intérieur de 5 ans est en hausse et que 10% des laveuses qu'on trouve dans les centres de recyclage ont moins de 5 ans.
Mais ça s'appelle une garantie, non?
Des garanties qui sont d'un an, tu as des garanties sur des pièces, tu as des garanties totales sur un an, sur deux pièces. Et puis, tu sais, ça fait toujours partie. Les vendeurs te disent toujours, voulez-vous une garantie de 10 ans, de 5 ans? Là, tu dis, oui, mais si votre appareil n'est pas assez bon pour durer plus que 5 ans, pourquoi est-ce que je l'achèterais? Pourquoi est-ce que moi, je devrais acheter une garantie comme celle-là? Et c'est ça que ça pose aussi comme problème. Remarque que ça existe, hein, paraît-il, dans le marché automobile. Il y a au Canada une garantie sur la réparation des automobiles. Les automobiles doivent avoir une certaine durabilité et on doit pouvoir les réparer aussi. Donc, moi, je trouve que c'est très, très important qu'au Québec et au Canada, on suive cette loi-là, parce que si jamais cette loi passe en Europe et dans plusieurs États américains, et ça a l'air que ça va arriver, il faut que nous aussi, on la passe. Sinon, on va se retrouver, nous, avec les machines qui sont de mauvaises machines qui brisent. Tu comprends bien que les manufacturiers vont écouler au Canada et au Québec toutes les pièces, toutes les machines qui sont finalement de très mauvaise qualité.
Tu as raison.
Européens et les Américains font ça, on est obligés de le faire.
OK, mais c'est très intéressant. Alors, ce débat-là se déroule présentement en Europe.
Très bien. Aux États-Unis, dans 18 États.
Excellent. Merci, Loïc Tassé.
C'est un plaisir. Salut.
Salut, à demain. Benoît Charrette qui s'amène pour nous parler de ce mariage entre les deux géants Ford et Volkswagen, tout de suite après la pause.
Voilà.